Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bonjour à tous, chers auditeurs de la Radio Gina. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Ici, nous parlons de santé mentale, nous parlons de bien-être émotionnel, nous racontons des histoires humaines, nous mettons en lumière tout ce qui va avec le mal-être mental pour avoir une société plus équilibrée. Je suis Délivrance T, encore une fois, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'autisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'autisme. Dans un numéro précédent, nous en parlions, nous avons eu le témoignage d'une dame, Madame Tchagbataou, qui est mère d'un enfant autiste de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autisme avec une psychologue. Elle va nous expliquer plus en profondeur ce que c'est que l'autisme. Elle va nous parler des causes de l'autisme et nous allons voir un peu tout ce que ça comporte comme charge mentale. Donc, accueillez avec moi le docteur Salifou Ourosama Risikatou. Bonjour, madame.
Oui, bonjour, Lady Délivrance.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir pour moi.
Vous exercez au centre Saint-Jean-de-Dieu d'Agoué, c'est cela?
Oui, c'est bien cela.
En tant que psychologue clinicienne?
Oui.
Oui. Donc, comme je le disais dans l'introduction, Madame Tchagbataou a donné son témoignage. Elle a une enfant autiste de 14 ans. Oui. Et elle a raconté comment elle a beaucoup de problèmes à cause de la façon dont l'autisme même se présente en tant que maladie. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que l'autisme, très simplement?
Oui, merci beaucoup. Oui. C'est un plaisir pour nous que d'en parler, parce que c'est un sujet qui reste encore très, très, très méconnu. Mm-hmm. L'autisme, il faut commencer par dire que l'autisme n'est pas une maladie.
D'accord.
Oui, ce n'est pas une maladie. C'est plutôt, parlant du trouble du neurodéveloppement. Okay. C'est-à-dire que c'est au moment où le cerveau devrait se mettre en place qu'il y a eu des anomalies et que ça n'a pas été fait. Okay. Maintenant, comment est-ce que nous le définissons? Est-ce qu'il y a vraiment une définition? Tout ce que nous savons, c'est que quand l'autisme affecte un individu, il faut s'attendre à ce que sur trois axes, il y ait des problèmes. Il y a l'axe du comportement, c'est-à-dire que le comportement, il va avoir problème, et l'axe de la communication, et l'axe de des relations sociales. Oui. Donc, si trois axes, il y aura des problèmes. Et les problèmes, nous les remarquerons par rapport au niveau de l'autisme, parce qu'il y a des infos différents.
D'accord. Oui. Tel que vous l'expliquez, est-ce que vous avez une image ou une métaphore parlante pour mieux l'expliquer? Comme par exemple, vous savez, les personnes qui sont trisomiques, quand on les voit, ils ne sont pas bien, peut-être qu'ils ne vous regardent pas dans les yeux, leur développement s'est coupé quelque part en cours de route. Est-ce que vous avez une image comme ça qui pourrait dire, ok, ceci c'est l'autisme?
Non.
Vous n'en avez pas?
Il n'y en a pas.
D'accord.
Et c'est d'ailleurs pourquoi expliquer l'autisme devient un peu difficile.
Ok, oui. Ok. Mais au niveau de l'autisme, on a différents niveaux, n'est-ce pas?
Oui.
On ne dit pas on est autiste, on n'est pas tous autistes de la même manière. Quels sont les différents niveaux d'autisme?
Justement, la meilleure façon même d'exprimer qu'on n'a pas, vous allez voir qu'actuellement, nous ne parlons plus vraiment d'autisme, mais on parle du spectre de l'autisme.
Oui, le spectre.
Oui, le spectre de l'autisme. Mm-hmm. Et ce qu'il faut comprendre fondamentalement, cette nouvelle appellation est que chaque enfant ou bien chaque individu autiste est spécifique en lui-même.
D'accord.
On ne peut pas avoir deux personnes qui souffrent de l'autisme et qui le présentent de la même façon. Non.
OK. Donc, il n'y a pas de manifestations de base que toutes les personnes autistes ont pour ensuite développer des spécificités?
Il y en a, mais seulement, puisque nous parlons du spécial, c'est beaucoup d'aspects de la vie qui sont en même temps affectés.
D'accord.
Et du coup, vous ne pouvez pas avoir deux, trois personnes qui aient les mêmes domaines qui sont affectés.
Oui,
même si nous savons que fondamentalement, c'est sur le comportement, sur la communication et sur les relations sociales.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les causes? Qu'est-ce qui cause l'autisme?
Une grande souffrance.
Une grande souffrance.
On ne peut pas dire. Parce qu'aujourd'hui encore, la science n'a pas encore réussi à nous doiter la cause de l'autisme. On sait juste que les causes sont multifactorielles. Mmh. Et pour le moment, on soupçonne la génétique.
On soupçonne?
Oui. la génétique et les facteurs neurobiologiques.
C'est-à-dire en français qu'on peut comprendre.
Les facteurs génétiques, ça veut dire que...
Non, les neurobiologiques.
Neurobiologiques. Oui. Même quand on dit génétique, les gens pensent que, oui. Ah, comme j'ai un enfant comme ça, il faut que je regarde très bien le papa ou la maman, s'il n'y a pas de traits là-bas.
Oui.
Pas forcément, parce qu'on a des gènes. Oui. On n'a pas encore isolé les gènes pour dire « Ah, c'est tel ou tel. » Mais on s'est quand même rendu compte qu'il y a des gènes qui apparaissent là-dedans. Et la preuve, c'est qu'on a plus de garçons affectés que de filles.
Oh!
Oui, le pourcentage de garçons est plus grand que de filles. Maintenant, les facteurs neurobiologiques, ça veut dire comment nos hormones fonctionnent, se mettent en place, fonctionnent, comment leurs sécrétions sont faites. Donc ça, mélangé aux facteurs génétiques, on dit que c'est ça. Mais on n'a pas encore réussi à nous dire exactement quoi et comment ça se joue.
Donc il est difficile de dire que l'autisme est dû à telle chose
ou telle chose. Mais d'autres scientifiques ajouteront aussi les facteurs environnementaux en incriminant surtout les... Tout ce que nous utilisons, les pesticides, tout ce qui est aujourd'hui en train de détruire l'environnement ou bien de le changer. Oui. Et d'autres ajoutent aussi ces facteurs-là.
Mais on est quand même d'accord pour dire que ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas quelque chose que papa a mal fait ou maman a mal fait. L'oncle du village a maudit la lignée. Ben oui, parce que malheureusement, dans nos sociétés, ça existe. On pense ce genre de choses. Ça n'a rien à voir.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Pas que ça existe, ça continue par exister. Oui. Les gens pensent toujours, puisqu'il faut déjà voir dans la culture le nom que les gens donnent à la chose. Donc déjà, ces noms-là montrent que c'est des gens qu'on écarte en y mettant des causes spirituelles, comme ou bien mystico-religieux. Ah, c'est le grand-père qui est fâché, qui est revenu. Ah, c'est la maman qui aurait commis l'infidélité ou l'adultère. Donc, toutes ces causes-là, il faut comprendre. Aujourd'hui, il faut comprendre fondamentalement que ça n'a rien à voir.
Rien du tout.
Non. Ce n'est pas parce que les parents ont fait quelque chose.
Et derrière... En disant cela, on ne se rend pas compte que potentiellement, nous pouvons aussi avoir des enfants qui seront autistes.
Ben juste, oui. Nous sommes tous exposés, personne n'est écarté.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques symptômes? Quand on a un enfant, bon, moi je mets au monde un enfant, quels sont les symptômes qui me mettraient la puce à l'oreille pour que je sache?
Habituellement, nous disons que les symptômes apparaissent avant les 2 ans.
Avant?
Oui, il y en a qui vont jusqu'à dire entre déjà 16 mois, on peut remarquer.
Ok, un peu plus d'un an, non?
Oui, mais comme je vous le dis, aujourd'hui nous parlons plutôt de niveau.
Oui.
Et puisque nous disons que ce n'est pas une maladie, quand vous allez dans ce que nous appelons la Bible ou le Coran des acteurs de la santé mentale, le DSM, vous allez voir qu'on nous parle de 3 niveaux. Okay. Donc il y a le niveau... Léger, ok. Quand on dit léger, ça veut juste dire que on dit cela nécessite un soutien.
D'accord.
Niveau 2, cela nécessite un soutien important. Et ça veut dire que niveau 3, c'est que le soutien est indispensable.
Ok.
Vous voyez? Déjà, vous allez voir que je ne parle pas de prise en charge pour que cela donne une connotation de maladie.
Oui.
Voilà. Donc, niveau 1, ça veut dire que l'enfant a des capacités, même s'il y a des problèmes au niveau de la communication. Mm-hmm. Peut-être la communication, elle est là, mais elle est atypique.
D'accord.
Atypique, par exemple, vous pouvez avoir l'écolalie. Vous venez de répéter un mot, il entend, il commence à répéter.
Ok.
Ouais. Donc, c'est atypique. Ou bien vous lui dites au revoir, il n'est pas capable de comprendre qu'au revoir, c'est vous lui faites là, il n'est pas capable.
D'accord.
Donc, au niveau du langage, c'est vrai, il y a un problème, mais cela ne l'empêche pas vraiment d'avoir une conversation ou bien de rentrer en communication avec les gens au niveau de la communication. D'accord. Maintenant, au niveau comportemental aussi, vous allez avoir des comportements qui sont aussi atypiques. Par exemple, répéter le même geste plusieurs fois. Et sans se rendre compte ou bien sans que ça ne le dérange.
D'accord, ça devient un peu comme des tocs, les troubles comportementaux qui font que les gens ont tendance à peut-être déplacer une chose. Si la chose n'est pas dans cette position, ça le dérange.
Non, là, la personne peut se déplacer. Une fois que ça rentre dans le champ où il le veut, il laisse. Mais lui, c'est pas ça. Mais il peut, okay. s'il se propose de jouer avec ça, oui. faire ça, il peut le faire pendant...
Non-stop. Ok.
Ouais. Donc, il y a ça. Et le comportement aussi, c'est de ne pas avoir, par exemple, la compassion. Là, tout de suite, nous sommes là et un enfant se met à pleurer. Je pense que si tous les enfants sont ici, ils vont se prendre pour chercher à voir. Lui, ce n'est pas son problème. Ça ne lui dit rien, par exemple.
Ça ne le touche pas.
C'est comme s'il était immunisé contre la compassion. Vous voyez?
Limite, c'est une personne un peu froide ou détachée, on va dire
c'est
ça.
C'est ce que nous dirons. Mm-hmm. Sauf que quand on analyse leur intérieur, en fait, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Ce n'est pas vraiment ça. Les relations sociales aussi, c'est ça. Ce sont des personnes qui ne savent pas aller vers les autres ou bien tisser la relation. Peut-être il vous donne quelque chose qui veut prendre ce qui ça c'est de venir arracher ou bien de vous taper dessus. Mm-hmm. Il ne sait pas qu'il peut dire, s'il vous plaît, donnez-moi ceci.
Oui.
Donc, ouais. Donc la relation, elle est là. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Elle est là, mais un peu quand vous regardez de près, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Et dans le niveau 1, par exemple, l'enfant fait aller à l'école.
L'école normale.
Voilà, mais juste qu'il a besoin qu'on le soutienne. Parce que quand le soutien n'est pas là, les anomalies apparaissent. Maintenant, quand nous allons au niveau 2, ça veut dire que le soutien est vraiment important. Ça veut dire qu'il doit être accompagné. Parce qu'il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire seul. La communication peut être là où karma absent. Un peu seulement où karma absent.
Quand vous parlez de communication, vous voulez dire le fait de s'exprimer, de parler?
Oui, discuter, échanger avec les gens. Et c'est quelqu'un qui peut peut-être pas, même pas engager un entretien et le soutenir. Vous voyez? Donc, quand il est dans un groupe et que vous voulez qu'il puisse participer, il faut être là pour le stimuler, pour l'inviter. Donc, voilà quelque chose. Donc, lui, il a besoin qu'on soit à côté permanentement. Et dans le relationnel aussi, la même chose.
Ça doit être très compliqué.
Oui, c'est compliqué. Alors, imaginez quand c'est le niveau 3. Donc, nous avons les trois niveaux. Là, vraiment, c'est que l'accompagnement est quasi présent. C'est tous les jours, c'est permanent. Parce qu'il dépend forcément de quelqu'un. Il ne peut pas s'en sortir seul. Il ne peut pas être autonome seul.
Donc, c'est des personnes, le niveau 3, qui ne pourront jamais avoir une vie sociale normale, classique.
Oui, mais en même temps, nous sommes en train de dire que quand on prend en charge, on améliore.
Oui.
On améliore le niveau.
Oui.
Quelqu'un qui est au niveau 3 et qu'on prend en charge peut s'améliorer jusqu'à s'approcher du niveau 2. Mais quand on le laisse à lui-même là, ça s'aggrave. Donc, c'est pourquoi la prise en charge qui est pluridisciplinaire est plus basée sur l'éducation. C'est très, très, très important. Mm-hmm. C'est très important. Quand on éduque, et surtout quand on prend précocement, on a de bons résultats.
D'accord. On va parler de ça parce que si j'ai tout bon, nous n'avons pas réellement de structure adaptée pour prendre en charge ce genre de troubles ici au Togo. On va en parler. Je voudrais savoir, les personnes autistes, quels sont leurs propres ressentis par rapport à ce qu'elles vivent, leurs émotions? Est-ce qu'elles souffrent d'anxiété? Et quelque part, est-ce que par rapport à la stigmatisation dans la société, parce que clairement, elles sont stigmatisées, est-ce qu'elles le ressentent, cette stigmatisation?
Elles le ressentent, ça dépend du niveau.
Oui.
La personne qui est dans un niveau 1, il peut le ressentir.
Oui.
Quand il est rejeté, quand dans une société, dans un groupe, on est en train de faire quelque chose qu'il ne comprend pas et que peut-être il pose plusieurs fois des questions et que les gens commencent par faire toi aussi. Ça veut dire qu'on ne le sait pas. Et sous notre ciel, ce n'est pas encore là, mais sous d'autres ciels, il affiche vraiment, il peut arriver avec un pancarte qui dit je suis autiste.
Oh, oui. Très pratique.
Il le dit, oui, je suis autiste, donc peut-être que je vais avoir des comportements qui sont un peu déplacés. Ne le prenez pas trop mal, c'est parce que je suis ici. Donc, ils le savent. Le niveau 1, le niveau 2, on peut vraiment le sentir. Le niveau 3, peut-être, il ne le ressent pas parce qu'il ne sait pas ce qui arrive. Mais niveau 1, niveau 2, ils le sentent, ils peuvent en parler. Puisqu'ils peuvent travailler.
Oui.
Quelqu'un qui est au niveau 1, il peut travailler, il peut intégrer la communauté, il peut travailler.
N'importe quel travail, a priori.
A priori, oui. A priori. Maintenant, quand les gens ne le comprennent pas, ils ne l'acceptent pas avec ses limites et qu'ils attendent de lui qu'il soit au niveau où les autres sont, c'est sûr que ça peut créer de l'anxiété chez lui. Ça peut créer de l'anxiété.
Oui. Et maintenant, clairement, si, comme vous dites, sous d'autres cieux, j'arrive avec une pancarte, je suis autiste, il faudrait d'abord que la personne en face de moi, la personne qui voit la pancarte, sache ce que c'est qu'un autiste.
Oui, ça c'est sûr. ça cesse.
Il Donc, faut c'est une vraie sensibilisation qu'on devrait faire ici.
Pourquoi le 2 avril?
Oui.
C'est pourquoi le 2 avril? Oui. Donc, le 2 avril, c'est pour crier au monde entier. Écoutez, écoutez, arrêtez-vous un peu sur cet aspect de la société. C'est des gens qui vivent dans notre société. Ils ont leur place, ils ont le droit de vivre malgré les difficultés qu'ils ont. Et que nous devons savoir d'avance qu'il y a ces personnes-là pour pouvoir faire ce que nous devons faire pour les intégrer, pour les accepter dans notre société.
Et quand vous faites ce type de sensibilisation, est-ce que vous avez l'impression que les gens écoutent, le message passe?
Oh, ça passe beaucoup.
D'accord.
Parce qu'une fois que les sensibilisations, l'année passée, nous avons fait beaucoup de journaux, beaucoup de radios, en tout cas, félicitations, qui sont vraiment mobilisés autour du 2 avril.
Oui.
Mais après, les gens vous appellent. Quand on laisse les numéros, on dit, ah, nous sommes une association, nous faisons aussi. Les gens appellent. Les gens appellent. Les médecins aussi envoient beaucoup maintenant. Avant, même dans le corps de la santé, on ne savait pas trop ce que c'est. On reçoit l'enfant avec tous ses troubles, on se demande ça c'est quoi. Mais aujourd'hui, avec cette sensibilisation, les gens vont y chercher, ils comprennent. Et oui.
Et l'association, vous pouvez nous parler de l'association, dire un peu?
Oui, il y a 5 ans, non, nous avons mis en place ATMM, que nous définissons Autisme Togo, Mystère et Merveille. Voilà. Et cette association a pour quoi but de rassembler les parents qui ont des enfants, des personnes, des familles qui ont des membres qui souffrent de l'autisme.
Oui.
L'idée d'abord, c'est que nous puissions être ensemble, que chacun sache que le problème que je vis, la difficulté que je vis dans ma maison, en fait, je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un aussi. Peut-être que ce qui est problème, difficulté majeure pour moi aujourd'hui, quelqu'un a déjà trouvé une solution.
Oui.
Et cette personne peut partager avec moi. Donc, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire des plaidoyers. OK? Auprès de qui de droit pour pouvoir nous aider à mettre en place des structures de prise en charge.
Oui.
L'école. L'école surtout. L'école. Et certains me diront, mais pourquoi faire une école à part quand nous parlons d'école, l'inclusion? Oui, il y a inclusion, mais à la limite, il y en a qui ne peuvent pas être dans ce sens. Nous avons fait un peu l'expérience avec l'école, la promotion, que je salue du passage. Mais nous avons compris que c'était un peu difficile.
Oui.
D'abord, l'environnement, l'espace n'était pas assez grand pour nos enfants. Ce sont des enfants qui ne supportent pas d'être confinés.
OK.
D'accord. Donc, l'espace n'était pas assez grand. Les autres enfants aussi n'étaient pas encore prêts, préparés. Et les parents aussi ne l'étaient pas encore.
Oui.
Vous voyez? Donc, tout ceci. Donc, si la structure est là, pour ceux qui ne sont pas encore, par exemple, ceux qui sont au niveau 2 et 3,
oui,
le temps de travailler élevé. Voilà, avec eux pour les ramener au niveau 7 pour pouvoir les mettre dans le niveau 1, donc dans le cursus normal et ordinaire, je pense que ce serait bien. Et il y a un troisième aspect que nous n'oublions pas, c'est le soutien aux parents. C'est indispensable, c'est fondamental. D'abord, ça fait partie même de la prise en charge.
Oui.
Donc, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire et ça dépend des difficultés de l'enfant. Comme je vous l'avais dit, deux enfants, deux individus qui souffrent de l'autisme ne sont pas les mêmes. Pas un coup. Donc, il y a la prise en charge que le psychomotricien va apporter par rapport au langage du corps. Il y a l'orthophoniste qui va venir avec le langage. Il y a le psychologue qui va venir pour coordonner le tout. Il y a le pédiatre peut-être qui a fait déjà le diagnostic et qui a mis. Il y a le psychologue aussi qui va travailler sur la TCC avec la thérapie cognitivo-comportementaliste, comment associer le mental et le corporel.
D'accord.
Et il y a le soutien parental aussi qui vient parce que quand le parent est débordé et qu'il s'écroule, personne n'est là pour soutenir cet enfant-là.
Oui.
Et cela arrive.
Et parce que dans le témoignage de Madame Chagbataou, elle en parlait, elle a son enfant, elle l'a porté pendant longtemps au dos, elle a des douleurs lombaires, mais derrière il n'y a pas réellement des gens pour l'accompagner. Je veux dire, même si on n'a pas de structure adaptée pour la prise en charge, la société est assez dure envers elle, du coup elle est en train de courir tout le temps. Et moi, la réflexion que ça me suscite, c'est que par rapport à la prise en charge pluridisciplinaire dont vous êtes en train de parler, j'imagine que c'est une affaire de gros sous. Parce que tout ce que vous avez cité comme discipline là, il faut avoir de l'argent pour pouvoir aller vers ces spécialistes.
Ben oui.
Du coup, elle est obligée de travailler, mais il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant. Et ça doit être vraiment dur. Je me demande, Est-ce que, je veux juste lever le voile dessus, est-ce que les autistes au niveau 1, est-ce qu'ils ont des déficiences intellectuelles?
Pas forcément.
Mais ils pourraient.
Pas obligatoirement, mais oui, c'est possible. Mmh. Parce que l'autisme peut s'accompagner d'autres maladies.
Ok.
Oui, l'épilepsie. Mmh. Oui. Comme vous le dites, déficience intellectuelle.
Mmh. Oui.
Mais ce n'est pas systématique.
Mmh. D'accord. Mais ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
D'où l'importance de pouvoir prendre ses enfants en charge pour les aider à vivre tous les jours.
Oui, à vivre tous les jours. À développer même leur potentiel. Mmh. Ils ont plein de potentiel. Mmh. Il y a quelque temps, j'ai vu une émission qui est passée sur je ne sais plus quelle chaîne où on a montré un enfant autiste de 12 ans au Nigeria qui avait fait de grandes peintures. Mais elle, lui ne parle même pas.
Okay.
Donc, si on ne détecte pas le talent reste à dormir.
Oui, oui.
Ça reste à dormir. Donc, il faut le détecter, le stimuler pour qu'il puisse apporter quelque chose à sa société.
J'ai lu quelque part que les personnes autistes sont souvent très intelligentes.
C'est possible.
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vérifié, mais dans certains domaines spécifiques, il paraît qu'ils ont une grande sensibilité.
Oui.
Voilà, ils ont une très grande sensibilité. Donc l'autisme n'est pas que lié à des traits négatifs, on va dire. Est-ce qu'il y a des forces positives au niveau de l'autisme? Est-ce que vous en connaissez?
Oh oui. Mm-hmm. Et c'est justement pourquoi nous martelons sur le fait que l'autisme n'est pas une maladie. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est juste, vous avez beaucoup de clichés maintenant qui sont pour montrer ce que c'est que l'autisme ou bien pour aider les autistes, pour nous montrer un peu leur monde. Ou dans ces clichés, vous voyez, dit juste que je suis différent de toi. Mm-hmm. Je ne suis pas malade, je suis juste différent de toi. Mm-hmm. Je comprends le monde autrement. Mm-hmm. C'est tout ce que c'est. Mm-hmm. Ouais. Donc oui, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont autistes, mais avec des intelligences vraiment grandioses et qui peuvent faire quelque chose. Mais ils ont une intelligence à sens unique. Okay? S'il veut être informaticien, il sera brillant tellement. Waouh.
Il ne peut pas. À côté, il ne fera pas autre chose.
Non, à côté, il ne fera pas autre chose. Il veut être footballeur, il sera le meilleur.
À c'est
côté,
des gens focus.
Pas. Voilà. Okay. À côté, il ne fera pas autre chose. Donc maintenant, ce que nous disons, c'est... En fait, est-ce que c'est à eux que c'est difficile ou bien c'est à nous? C'est nous qui avons déjà tous nos canevas et tout. Mmh. Donc c'est difficile pour nous de comprendre que pour aller trouver leur intelligence et le stimuler, ce n'est pas le canal que nous avons
normal.
Habituellement.
Oui.
Qu'il faut trouver ce canal-là. C'est pourquoi c'est difficile pour nous.
Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants autistes au Togo?
Beaucoup.
Mais on ne sait pas.
Beaucoup. Je n'en ai pour exemple qu'aujourd'hui, sur la plateforme, nous avons 70 familles. Je dis famille, hein, parce qu'il y a des familles qui comptent au moins deux.
Deux autistes dans une famille. Waouh, j'imagine la charge.
Ah, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et ça, il n'y a pas que ATMM. Il y a d'autres associations, mais c'est ATMM que je connais mieux. Donc, c'est pourquoi je suis toujours ATMM. Beaucoup. Mm-hmm. Et là, il y en a qui ne savent même pas, parce qu'ils n'ont même pas encore mis le nom sur le trouble qu'ils ont devant eux. Mm-hmm.
Et par rapport au fait de mettre le nom sur le trouble, si je me réfère encore une fois à l'histoire de Madame Tchagbataou, elle a parlé de la longue errance médicale, parce que l'enfant a commencé à développer certains traits de caractère, comme vous l'aviez dit, vers 2 ans. Et en temps, elle a vu pas mal de spécialistes, et aucun n'a su diagnostiquer la maladie. On lui disait c'est un retard de croissance ou quelque chose comme ça. Et finalement, si quelqu'un écoute, la personne a des enfants ou un enfant qui présente un certain nombre de traits de caractère de ceux que vous venez de parler, et cette personne veut aller vers un spécialiste pour avoir un diagnostic. Vers qui elle va? Un psychologue?
Normalement, c'est le pédiatre. Vers le pédiatre, la personne doit se rendre.
Le pédiatre.
Le médecin qui s'occupe d'un enfant, c'est le pédiatre. Et là, s'il a ça, on va vers le pédiatre. Mm-hmm. Et donc, le pédiatre qui soupçonne dit, ah, ça, et puis envoie. Maintenant que nous parlons de pluridisciplinarité, si des structures étaient là, il y a encore un plaidoyer qui est en train d'aller dans ce sens actuellement.
Okay.
Dans la même structure, on aura tous ces spécialistes.
D'accord.
Et quand moi, en tant que pédiatre, je soupçonne, je dis va dans cette structure, parce que je sais qu'en place, on peut tout avoir. Okay. Maintenant, ce qui ne sait pas le cas, okay, le pédiatre finit, il peut envoyer vers le psychomotricien qui dit ok, d'accord, je veux. Maintenant, la part qui revient au psychomotricien, je le prends, je fais mes tests, mais je ne finis pas, j'envoie à l'orthophoniste. Parce que je soupçonne.
Oui.
Je me dis que l'orthophoniste, il sait que, puisque sur mon bulletin, si je viens dire soupçon d'autisme, soupçon du TSA, trouble du spectre de l'autisme, il sait quel type le test faire. Okay. Lui, il finit, il envoie le psychologue. Donc, au final, mais il faut qu'à la tête, il y ait une personne, un spécialiste qui va coordonner tout ça là.
Et c'est le pédiatre?
Non, c'est le psychiatre.
C'est le psychiatre.
Oui, c'est le pédopsychiatre. Donc, il faut être les deux.
Pour les enfants, d'accord. Mais maintenant, comment on se retrouve dans des cas où le pédiatre lui-même, il ne sait pas à quoi il fait face?
Il est en train de le savoir, Vera. C'est avec, ce que nous disons.
Avec un peu de temps.
Avec tout
ce moment-là,
oui. Non, il faut reconnaître, avec un peu de temps de retard. Maintenant, il y a beaucoup qui se réveillent quand même. Parce qu'on nous appelle, hein, c'est dès qu'il nous appelle pour dire, ah, je viens de détecter. En tout cas, je soupçonne fortement. Je vous envoie dans l'association. Comme vous savez que vous avez des... Allez, vous l'allez faire ce qu'il y a déjà, c'est bon.
Donc, beaucoup de choses se font au niveau de l'association parce que, comme j'ai dit, il faut de gros sous. Donc, vous essayez d'aider les gens au mieux.
Oui.
De les accompagner.
Oui, on prend les rendez-vous pour la personne. On l'indique vers quel spécialiste aller. Oui. Parfois, on va voir le spécialiste qui dit non, il faut nous faire une consultation groupée. Donc, tu es revenu. On a fait ça avec un pédopsychiatre qui est venu de la France. On a dit, attention, tu en as pour 2 semaines. Ok, d'accord. Nous, on a 20 personnes, 20 familles. Est-ce que tu peux les prendre? Voilà, on négocie le temps, la somme, tout ça. Là. Vas-y, prends-les en même temps.
D'accord,
vous essayez d'être sûr de... Oui.
D'accord, de leur simplifier la vie au maximum.
Oui.
Je vois un peu. Madame Chagbataou, elle a parlé du fait qu'elle a compris que ce n'est pas une prise en charge médicamenteuse qui va aider. Parce qu'au début, on avait prescrit des médicaments à l'enfant. Elle a dit que c'est aux côtés de... Oui, de la prise en charge, en fait, dans les activités réellement. Et ça les aide, vous mettez en place des activités pour aider les enfants.
Oui, actuellement au niveau... excusez, l'année passée, j'ai dit qu'on avait fait une expérience avec l'école de la promotion. Mais bon, on salue quand même, ça n'a pas été vraiment parce que l'espace et tout ce dont nos enfants avaient vraiment besoin pour pouvoir s'épanouir, c'était difficile d'élargir les murs, non, d'arrondir les choses. Donc cette année, nous sommes partis avec l'expérience de créer une structure au sein
De l'association.
Au siège de l'association que nous avons appelée la petite maison. Et nous avons 7 enfants. Et nous avons mis vraiment en place un programme qui leur convient.
Ok.
Nous avons pour le moment, nous avons un éducateur spécialisé. Ok. Nous avons une dame qui joue le rôle en même temps de assistante maternelle et qui est enseignante. Et à côté, il y a une nounou et qui est aussi assistante maternelle, qui sont là pour les 7 et des activités. Il y a activités individuelles, activités en groupe, le sport où on peut apprendre à partager, à échanger, où on peut apprendre aussi à manger. Parce qu'au niveau du manger, l'alimentation aussi, parfois, c'est difficile. Il y en a qui ne connaissent qu'un seul aliment et vont se mettre là-dessus, rien que ça.
Ils veulent manger chips.
Chips. Pas autre chose. Oui. Donc, tout ça, là, ça rentre. Et le travail qui est fait actuellement, c'est d'étudier chaque enfant et d'adapter le programme à chaque enfant selon ses besoins.
Oui.
Si celui-ci, lui, il a juste besoin d'apprendre la propreté, l'autre, peut-être, a besoin juste d'améliorer sa relation avec les autres.
Oui.
On ne voit pas. On a des activités en groupe, mais quand ça va arriver aux activités individuelles, c'est sur les déficits qu'on va mettre l'accent individuellement pour améliorer. Donc, vous voyez, ça fait une école spécialisée.
Oui. Et quand je vous entends parler, je me rends compte que c'est vraiment énormément de travail. Il faut travailler avec les individus pour les faire évoluer chacun à leur niveau.
Oui.
Donc, c'est une scolarité que vous offrez à ces enfants, c'est ça?
Oui, c'est une scolarité.
Pour revenir un peu aux parents, à la charge que les parents transportent d'avoir des enfants qui... De grands enfants, un enfant de 14 ans qui ne peut pas se nourrir seul, qui ne peut pas faire ses besoins seul parce qu'il n'a pas appris les bases de la propreté. Qu'est-ce que vous préconisez pour des parents qui ont cette charge? Quel type, je ne sais pas, d'activité ou d'exutoire vous préconisez pour des parents qui sont dans cette situation?
C'est beaucoup de choses qu'on leur propose.
Oui.
À la terre, même, par exemple, nous avons 3 activités phares pour les parents. Il y a d'abord la formation.
La formation.
Oui, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que l'autisme.
Oui.
Beaucoup ne savaient pas. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils soient dans le réel. Même quand ils amènent les enfants à l'école, il faut qu'ils sachent ce qu'on peut faire. Comme vous le dites au départ, est-ce que les gens comprennent que c'est à vie? Ou bien le parent pense et reste toujours en train de rêver, non, d'ici un an ça va aller, d'ici deux ans ça va aller. Et même quand nous proposons l'éducation, ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous pouvons récupérer? Vous voyez? Donc, l'information aide les parents à comprendre cela. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est d'offrir aux parents le soutien. Malgré qu'ils comprennent, il y a des moments où on en a ras le bol, on a envie de crier.
Oui.
On a envie de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Oui. Et je vais le faire chez qui? Avec qui? Nous offrons ce cadre-là. Okay. Donc, du coup, actuellement, nous avons des rencontres bimensuelles.
Okay.
Chaque premier samedi de chaque deux mois, non, il y a, on se retrouve entre les parents. Mais c'est une rencontre en ligne.
Oh.
Oui, c'est une rencontre en ligne. Peut-être que c'est si vous voulez, on va vous faire participer pour que
j'aimerais
vous puissiez
bien. Oui, pour voir, que je un vois peu, un peu
voilà ce
oui.
qui se passe. Mm-hmm. C'est une rencontre en ligne où on désigne un parent, on le dit, bon, la semaine prochaine, c'est toi qui nous parle, qui vient parler de toutes les difficultés qu'elle a vécues dans la vie et tout. Mm-hmm. Et les autres qui s'y reconnaissent viennent aussi avec, ah, quand moi j'étais, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, et tout, et ça. Et à côté de ça, nous avons aussi des coachings qu'on leur propose. Où on prend des thèmes, on dit par exemple, tu es parent, tu as le droit de parler de ton stress. Et on va aller, c'est quoi le stress? À quel moment est-ce que ça devient négatif? Et qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? La natation, s'il y a la possibilité, marcher, échanger, aller se faire du shampoing et tout ça là. Et on leur apprend ça aussi. Et depuis un certain temps, nous avons commencé par travailler avec une psychomotricienne et qui vient leur parler spécifiquement de la psychomotricité. Et actuellement, nous sommes à la troisième phase où on leur dit, chez votre parent, puisque je vous ai enseigné ce que c'est que la motricité, les difficultés que nos enfants peuvent avoir, chez vous, votre enfant spécifiquement, c'est quoi le problème? Listez ça et venez. Et là, je vais vous proposer des séances de travail individuelles.
Ok.
Ouais. Donc on apporte tout ça là aux parents pour que le parent sache que d'abord il n'est pas seul, en plus qu'il a un cadre où il peut venir déposer tout son problème sans avoir honte, sans le cœur léger quoi, de repartir. Et il y a une quatrième activité, l'année passée on a accordé une activité où de danse. Oui, nous avons organisé quelque chose vraiment dans un hôtel qu'on a pris, un restaurant plutôt, un bar-restaurant où on a invité un comédien qui est venu le faire rire. On a dit aujourd'hui oubliez vos enfants pour toute une journée, où on a mis des jeux où les parents ont s'est bien éclaté et après on a dansé et les parents ont tellement aimé qu'ils ont dit au moins offrez-nous ça, si ça peut pas être chaque semestre au moins que chaque ce soit annuel. Donc les ressources que nous avons eues ont montré que pour une journée, vraiment, ils ont oublié les difficultés et ça fait du bien.
Ils ont relâché la pression.
Oui, ils ont relâché.
Ils en ont bien besoin.
Oui.
Et si, par exemple, quelqu'un ne fait pas partir de l'association, vous, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous pourrez recommander à la personne en termes d'activité pour pouvoir se décharger?
Oui, il y a plein d'activités, mais... je lui recommanderais plus d'être dans un groupe.
C'est plus facile à gérer?
Oui, c'est plus facile. Parce qu'il y a des moments où vous arrivez, vous en avez, il suffit d'appeler quelqu'un du groupe pour dire, voilà, je suis en phase de ça. Le peu de soutien que la personne peut vous amener, ça peut vous soulager.
Oui, c'est vrai.
Plutôt que sortir, aller marcher, revenir. Vous marchez, mais vous êtes en train de ruminer les mêmes choses. Mais échanger déjà, ça vous permet... Parfois, on vous écoute seulement, ou bien vous vous écoutez parler... et les choses changent dans la tête. L'image que vous avez, ça commence à changer. Vous dites, oh, mais c'est pas comme ça que je voyais la chose. Et quand il y a quelqu'un encore pour vous répondre, c'est encore mieux. C'est beaucoup parce qu'il y a trop de stress là-dedans. C'est mieux d'être dans un groupe. C'est mieux d'être. Mais maintenant, si on peut pas l'être, c'est vrai, les gens sont dans le groupe. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'activités en ligne. Les gens sont d'apparence. Oui, les gens sont d'apparence. Ils sont pas loués.
Vraiment élargis.
Oui. Nous avons beaucoup d'activités en ligne, c'est vrai, mais maintenant, si on ne peut vraiment pas, c'est pouvoir marcher, c'est pouvoir aller jouer si on peut le faire, c'est faire la natation si on peut, c'est échanger avec un ami, même si ce n'est pas sur le sujet, on peut s'accorder le temps de détente. c'est très important.
Seul.
Le parent, oui, seul. Sans son enfant, il ne doit pas culpabiliser parce qu'il s'est dit, les 30 minutes là, je veux qu'on me foute la paix. On le fait souvent, on dit aux parents, quand il y a le couple, on dit, le couple, le partenaire là, il faut fermer. Maman, dis-nous, quand tu en as assez, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me dis que ce monsieur là et ses enfants me foutent la paix.
Oh là là,
et on sort. Et on sort. Pendant 30 minutes, on éteint le téléphone et.
Mais j'imagine que ce n'est pas facile pour les parents parce que dans la communauté où on vit, dit, je vais prendre du temps pour moi, c'est assez compliqué à mettre en place. Mais il faut quand même faire l'effort parce que, comme vous l'avez dit, l'autisme, c'est à vie. Ils ont besoin d'un accompagnement en fonction des niveaux du spectre. Merci docteur.
Je vous en prie.
C'était un super moment. C'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse peut-être pas mal de personnes parce que il faudrait que nous puissions comprendre que les personnes autistes ont toute leur place au sein de la société. Ce n'est pas des personnes à mettre de côté. Mais si nous voulons avancer ensemble, c'est bien. De préférence, essayons d'inclure tout le monde. L'inclusion ne devrait pas être qu'un mot, mais réellement une réalité que nous devons mettre en place. Et nous remercions le docteur et l'association ATMM. Est-ce que vous pouvez donner un numéro pour vous joindre?
Oui, vous parlez de Madame Chaguatan, c'est la présidente de l'association.
Oui, mais vous avez un contact pour joindre l'association.
Oui, est-ce que je l'ai en tête?
Vous ne l'avez pas en tête, ce n'est pas grave, on le donnera plus tard. Mais dans tous les cas, si vous avez un enfant ou si vous connaissez quelqu'un qui a un enfant qui présente certains traits de caractère, des symptômes qui pourraient être associés à l'autisme, joignez l'association ATMM, on vous communiquera le contact plus tard. Chers tous, merci. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro du podcast Les mots comptaient consacré à l'autisme. Si vous aussi, vous avez une histoire, un vécu, quelque chose qui est en lien avec la santé mentale et vous aimeraient en parler dans le podcast Les mots comptaient, joignez la radio sur le 90 13 89 94 et je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. En attendant, prenez soin de vous. La santé n'a pas de prix. Prenez soin de votre santé physique et prenez soin de votre santé mentale. Soyons égoïstes, parce que si notre coupe est vide, nous ne pourrons pas remplir celle des autres. Donc, je vous dis rendez-vous les premiers jeudis et les derniers jeudis du mois à partir de 10h sur Radio Jenna pour un nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Merci pour votre belle compagnie. Je suis Délivrance T et je vous dis à très vite.
Contactez l'association Autisme Togo. Merveille et mystère sur le plus de 228 90 39 118 38.